Bonjour. Donc, moi, je vais représenter la voix des professionnels et je vais enchaîner sur la présentation que Michel Lussault vient de faire en vous disant ce que nous, donc, du côté des professionnels, nous attendons du socle, de la réflexion sur les compétences, des programmes qui viendront, en pensant justement aux partenaires extérieurs. Hein. Et dans les partenaires extérieurs, je vais aller au-delà des partenaires que vous pouvez représenter, mais interroger ce qu'on ne voit pas si souvent comme ça, comme un frein à ce qui se passe. Je ne dis pas que le monde scolaire n'est pas un des éléments du frein. Je voudrais interroger l'opinion française. Ce qui nous intéresse dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est la possibilité de valoriser d'autres formes de réussite que la forme unique de la réussite scolaire à la française. Alors Michel Lussault vient de parler du lycée général. Le lycée général a disparu. Et pourtant, tous les parents veulent que leurs enfants entrent au lycée général. C'est donc ce que moi j'appelle un mythe. Mais, par exemple, j'ai écrit un certain nombre de programmes. Et bien sûr, nous écrivons tous ces programmes selon l'endroit où nous nous situons. Si nous écrivons des programmes de collège, c'est en partant du lycée. Donc, vous voyez, on part du haut et on descend vers le bas. Et si on écrit des programmes de lycée, on part du haut, alors là, le haut, il est carrément... Enfin, il n'y a que deux hauts. Hein. Voilà. En France, il n'y a que deux hauts, les classes préparatoires et l'agrégation. Voilà, c'est comme ça. Bien, alors, c'est notre modèle à tous. C'est le modèle qui m'a formé, qui vous a formé, donc qu'il est difficile d'interroger. Alors, je vais prendre trois exemples. Je sais que je ne parle pas à des spécialistes de l'éducation, donc il n'y aura aucun sigle dans ce que je vais dire. Sauf un, mais vous le connaissez tellement, si je vous parle de la CAMIF, tout le monde voit ce que ça veut dire. J'ai travaillé donc effectivement, comme Daniel Frangi le disait, sur les domaines qui révèlent les inégalités. Et je commencerai par l'éducation prioritaire. Qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille sur l'éducation prioritaire? Je vais le dire sérieusement, puis après je le dirai un peu moins sérieusement, donc vous ne retiendrez que le sérieux. Ce qu'on apprend, c'est que des enfants dont les capacités intellectuelles sont les mêmes que celles des enfants d'autres milieux ne réussissent pas de la même façon. Voilà. Et c'est une vraie question. Quand j'ai été chargée avec Béatrice Gilles en 2005 de réfléchir et donc d'écrire un rapport sur l'égalité des chances, on s'est interrogé sur l'égalité des chances de quoi ? Égalité des chances de tous avoir le bac, de tous entrer en CPGE, de tous avoir l'agrégation, de tous être ministre. Si c'est un mythe, hein, j'en sais rien. Est-ce que c'est ça, l'égalité des chances ? Et alors, phrase qu'on ne peut pas retenir, mais qui nous a beaucoup aidé à réfléchir, même si la formulation est extrêmement choquante. Tant qu'on n'arrivera pas à comprendre pourquoi, quand on a un père chômeur ou un père alcoolique, on ne réussit pas en maths, on ne s'en sortira pas. Vous voyez, le problème, il est là pour les enseignants que nous sommes. Voilà, le père est au chômage, il ne réussit pas en maths. Cherchez le lien. Ce lien est compliqué à trouver. En tout cas, il y a quelque chose que l'on connaît dans les statistiques que font les sociologues. Il fut un temps où il y avait les catégories socio-professionnelles, enfin, les catégories favorisées, moins favorisées, les ouvriers, etc. Et puis aujourd'hui, la catégorie la plus favorisée, c'est pas du tout celle qui a les meilleurs salaires. C'est celle que je représente. C'est la CAMIF. Hein ? C'est-à-dire que les enfants qui ont le plus de chances de réussir leur parcours scolaire sont les enfants du milieu scolaire. Donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ce, ce concept d'enfant camif. C'est quoi un enfant camif? J'ai progressé jusqu'à c'est quoi un petit enfant camif, parce que les grands-parents camifs, c'est quelquefois lourd. En tout cas, si on a le temps, et si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi tout se passe pour l'enfant camif au petit déjeuner, et pourquoi ça ne se passe pas ailleurs. Deuxième exemple, qu'apprend-on quand on travaille sur le décrochage? Alors, je rappelle que le décrochage touche tous les âges. Ça n'est pas parce qu'on le mesure en lycée professionnel qu'il ne touche pas les lycées, qu'il ne touche pas le collège, qu'il ne touche pas l'école, qu'il ne touche pas l'école primaire, la maternelle. Alors bien sûr, ça se voit moins, parce qu'un enfant, généralement, quand il est petit, il décroche pas avec ses pieds, il décroche avec sa tête, simplement. Bien. Nous avons écrit un travail là-dessus. Ce qui m'importe, c'est que des élèves, à un moment de leur parcours, se sentent exclus de l'école. Quelquefois, c'est l'école qui les exclut. Mais en plus, quand elles ne pensent pas elles-mêmes les exclure, ils se sentent exclus. Ça, c'est aussi quelque chose qui a des causes typiquement françaises, même si d'autres pays que nous connaissent le même phénomène. Je vais donner trois exemples, trois causes plutôt. Tout d'abord, le fait que notre école est totalement fondée sur un système de tri. C'est comme ça que marche l'école française. Et depuis tout petit, dans ma propre famille, vous doutez que les familles camifs, elles parlent aussi de l'école, parce qu'il y a des enfants. Et je viens d'entendre parler d'une petite Clémence qui porte le même nom que moi, qui a 4 ans. Le père, par chance, n'est pas professeur, il est psychologue et il me téléphone en disant « Il faut absolument que je te raconte ce qui vient de m'arriver. » Petite communauté du midi de la France, sans problème, pas de banlieue, enfin, etc. Réunion de parents d'élèves. Il est psychologue, je vous rappelle, donc il a un certain regard. Hein, il n'est pas psychologue scolaire. Hein, bon. Il me dit « Voilà, j'entends. Bon, alors, Clémence Armand. Bon, pour les apprentissages, ça va, mais attention !» Alors, forcément, il... dresse. Alors, bien sûr, Armand, bah oui, c'était la première. Hein, on fait toujours ça par ordre alphabétique. Bien. Attention, elle fréquente les garçons de la classe supérieure. Alors, mon neveu, ça l'a plutôt amusé. Et il a fait ce que vous venez de faire, c'est-à-dire qu'il a eu une espèce de petit rire, comme ça. Et il a cherché un regard de connivence avec les parents qui étaient autour. Et là, c'est ça qu'il voulait me raconter. C'est qu'il n'a pas trouvé le regard de connivence, il a senti une tension absolue de tous les autres parents. Pas du tout, parce que la petite fille, elle allait jouer avec des garçons, elle avait 5 ans, hein, c'était pas très très grave. Bon, mais parce que tous les parents se disaient que va-t-il être dit de mon enfant? Voilà, système de tri qui commence très tôt. Deuxième élément, typique. Alors pourquoi c'est typiquement français? Sachez qu'il y a d'autres écoles, en particulier les écoles du Nord de l'Europe, où tout simplement... si la notion de redoublement n'est pas compréhensible par eux, c'est pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils comprennent pas ce que c'est. C'est qu'il est évident qu'un groupe d'enfants qui entre en même temps dans la scolarité obligatoire en sortira en même temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous le même parcours, mais on ne casse pas ce groupe. Deuxième élément qui pèse d'un poids terrible, la notation à la française. Alors, je n'ai pas parlé au nom du CSP, je ne vais pas parler au nom de la conférence de consensus sur l'évaluation. Je voudrais simplement dire que quand nous discutons avec nos partenaires étrangers, la première question qu'ils nous posent, c'est pourquoi rendez-vous les notes comme vous le faites? Moi, j'ai été professeur, j'ai rendu les notes comme tout le monde. Il faut un regard étranger pour se dire, tiens, oui, c'est vrai, pourquoi... La question qu'on nous pose, pourquoi rendez-vous les notes en public? On rend les notes dans une classe, parce qu'un enseignant ne pense pas qu'une classe est un lieu public. Pour les élèves qui sont là, ils sont en public. Ils sont avec les autres, et les autres, c'est des élèves, mais c'est des enfants qui sont dans un groupe de pairs. Et tous les professeurs savent qu'on peut faire n'importe quoi, les mettre dans un sens, dans l'autre. De toute façon, les élèves ne font qu'une chose. Ils se tournent les uns vers les autres. Toi, tu as eu combien? Bien. Et si on regarde notre histoire, pas très très ancienne, on a pensé faire un grand progrès en 68 en supprimant les compositions qui faisaient peur à tout le monde. Moi j'étais élève à ce moment-là, bon voilà, il n'y a plus de compositions. Et bien, quand on regarde le système actuel, on peut se dire qu'on a vraiment gagné quelque chose, c'est de faire peur à tout le monde, tout le temps. Alors, ça va pour les élèves qui n'ont pas peur. Mais les élèves sont notés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, toujours. Alors, bien, si on est bon, c'est très bon. Si on est en fragilité, ben on vous tape sur la tête. Et dernier élément de cette caractéristique française, j'ai employé un mot technique, mais c'est intéressant de le savoir, parce que vous allez voir que vous êtes dans ce mot technique. Nous ne validons toujours en classe, quel que soit le devoir, quelle que soit la discipline, qu'une seule sorte de compétence, ça porte un nom très technique, ça s'appelle la compétence hypothético-déductive, c'est la vôtre et c'est la mienne, c'est le fait que moi je vous parle, que vous, vous m'écoutez en prenant des notes. Tant mieux, je sais faire, vous savez faire. Ben oui, ben il y a des gens qui ne savent pas faire. Il y a des gens qui ne seraient pas à ma place pour parler. Et puis il y a des gens qui ne seraient pas à votre place pour écouter de cette façon-là. Et voilà. Et ben ces autres compétences, qui ne sont pas les compétences des vaincus de la compétition scolaire, ces autres compétences n'émergent pas et ne sont pas reconnues dans le système actuel. Je terminerai par un troisième exemple à l'autre bout de la chaîne. Quand nous avons travaillé donc sur le rapport sur l'éducation prioritaire, nous avons été expertisés deux systèmes à l'époque, le système Sciences Po et le système ESSEC. De l'extérieur, on peut croire que c'est la même chose. Vous voyez, ce sont deux grandes écoles, deux grandes écoles de renom, qui toutes les deux avaient eu l'idée de se dire « il faut aider des élèves, défavorisés, des élèves de banlieue, à réussir ». Système Sciences Po, ça a donné les lycées Sciences Po, c'est-à-dire on va aider des élèves à entrer à Sciences Po. Système ESSEC, complètement différent. Et sans doute, vous n'en avez jamais entendu parler, parce qu'on parle toujours du système Sciences Po. Système ESSEC, on va aider des élèves, des banlieues défavorisées, à réussir au mieux dans le projet qui est le leur. Et quand on est allé à Sciences Po, on a rencontré des étudiants qui aidaient des élèves à devenir médecin, à devenir infirmier, à devenir assistante sociale, à devenir ce qu'ils avaient envie de devenir. Vous voyez, c'est une toute autre optique, parce qu'effectivement, qu'est-ce que les étudiants de l'ESSEC leur apportaient ? Pas seulement les étudiants, vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours les professeurs et les directeurs qui s'impliquaient. Qu'est-ce qu'ils leur apportaient ? Se rencontrer entre eux, rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est comme ça qu'on casse la ghettoisation culturelle. Faire des sorties, dire que tous les mercredis, on était là. C'est très engageant. Tous les mercredis après-midi, on était là, on était attendu. Parler anglais, enfin, voilà. Bien. J'étais assez frappée mardi dernier, et je boucle cette présentation de ce qu'on attend du socle. Mardi dernier, avec l'inspection générale, nous étions à l'Opéra Bastille. Bon. L'Opéra, c'est 1600 personnes qui travaillent et 180 métiers. Voilà, c'est absolument énorme. Et nous réfléchissons à ce qu'est la professionnalisation. Alors, à un moment, on a visité les ateliers et on pouvait discuter avec les gens qu'on rencontrait en tout petit groupe. Moi, je me suis trouvée avec une femme qui est coiffeuse, maquilleuse, perruquière. J'ai demandé comment elle s'était formée. Alors d'abord, elle m'a dit, en France, ça n'existe pas. En Allemagne, ça existe. En Allemagne, quand on travaille dans le spectacle, on est coiffeur, maquilleur. C'est par l'Italie que j'ai rencontré le métier de la perruque. En France, ça n'existe pas. Ben oui, nous, en France, on a nos cases. Et je lui dis, et vous, vous êtes arrivé comment ? Ben moi, j'avais un bac littéraire et j'avais envie de travailler. Bon. Et puis, je suis passé aussi par des ateliers très techniques, mais je vous raconte le second. Ça s'appelle couture floue. Alors, floue parce que autrefois, il y avait la couture homme et la couture femme. Mais en fait, quand vous faites un manteau, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est à peu près la même chose. Et la couture floue, bah oui, je n'avais pas réfléchi à ça. Quand on est acteur, quand on est danseur, il faut, un, que ça permette de bouger, donc voilà, et puis il faut que ça tienne bien. Hein. Alors c'est tout ce qui est dentelle, vêtements, enfin, flou, c'est ce qui est léger. Jeune fille qui était là, qui était en apprentissage, qui était en train de coudre, et on lui dit, et qu'est-ce que vous avez fait comme formation ? Ben je suis sortie d'un bac S, et puis je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Voilà, ça nous a interloqués. Parce que quand on est dans l'éducation nationale, on se dit, les bacs S, c'est pour, et les bacs L, c'est pour. Voilà. Donc, ce que nous, professionnels de l'éducation, on attend du socle, des compétences, de la réforme du collège, c'est une nouvelle place faite à l'initiative, à l'engagement de l'élève, hein, au travail avec les autres, ce qu'on appelle l'intelligence collective, dans des démarches de projet, le développement, mais surtout la reconnaissance de capacités et de compétences qui sont celles qui vont dessiner vraiment le parcours d'un individu. Et pas seulement les compétences qu'on attend pour rentrer en CPGE. Ce que je dis, c'est que il faut qu'on les construise, il faut surtout qu'on les reconnaisse. Tant qu'avec les notes, elles ne seront pas reconnues, parce que vous êtes d'accord avec moi, moi je suis professeur de lettres à l'origine, j'ai jamais rencontré un élève qui en conseil de classe redoublait à cause de la gymnastique, mais même pas de l'histoire-géographie. Hein ? On redouble à cause des maths et du français. Bien. Cela dit, moi je sais ce qu'on en attend, mais je renvoie deux questions parce qu'elles me préoccupent. Vraiment. Les collectivités territoriales. Et je sais qu'elles sont représentées ici. Au moment des assises d'éducation prioritaire, il n'y a pas si longtemps que ça, je me trouvais à une tribune avec un élu local, et pas n'importe lequel, de Nanterre. Et il expliquait, à côté de moi, et il a dit tout naturellement. Parce que le signe du décrochage scolaire dans ma ville, c'est le nombre d'orientations en lycée professionnel. J'étais désespéré. Bon, je ne lui ai pas dit, bien sûr. Enfin, là, la tribune, mais sitôt arrivé en bas de la tribune, j'ai été le voir, je lui ai dit, attendez, vous rendez compte de ce que vous dites. Enfin, et il m'a répondu, mais oui, mais moi, je suis un élu. Et les parents, c'est ce qu'ils pensent. Donc je dis comme eux. Et c'est là qu'on se dit qu'on a la chance de ne pas être élu. Et voilà. Et puis, une deuxième question qui n'est vraiment pas une plaisanterie. Donc, au-delà des collectivités, c'est-à-dire notre société, l'opinion, les parents, nous tous. Quand, avec mes collègues, j'ai rédigé le rapport sur le décrochage, on a eu une conscience absolue que si on s'y prenait mal, on était en train de faire une publicité absolument extraordinaire. Alors, nous, on l'a dit pour Academia. Je ne sais pas si Academia existe à Lyon, mais voilà. Hein ? Ou pour l'enseignement privé. C'est-à-dire que, à ce moment-là, je prends souvent le métro. Je rêve de présider Academia, parce que je ferai fortune, ou je rêve d'interdire Academia. En tout cas, vous regardez une pub d'Academia, ils savent. Et je me disais, ça va être les premiers lecteurs du rapport sur le décrochage, c'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, là les parents, ils vont comprendre que l'école risque de changer et ils vont avoir peur, parce qu'ils veulent que pour leurs enfants, surtout rien ne change. Sauf s'ils décrochent, bien sûr. Alors là, ils vont venir nous chercher. Mais tant qu'ils ne décrochent pas, il faut que rien ne change. Donc, il y a nous, il y a les collectivités et il y a la société. Et c'est pour ça qu'il est si important, je reviens au CSP, qu'au CSP, il y ait la représentation politique, parce que nous, tout seuls, on ne décide rien. Alors, l'inspection générale, de toute façon, ne décide jamais rien. Il y a deux représentants de la DGESCO ici. Nous, on est là pour aider à penser ceux qui nous demandent de penser avec eux. C'est tout ce qu'on fait. Hein. Bon. Mais vraiment, on ne s'en sortira pas tous ensemble, et c'est pour ça que c'est très important qu'on soit ici aujourd'hui, si on ne convainc pas l'opinion, notre nation, que notre modèle scolaire est à bout de souffle. Il ne peut pas permettre à davantage de jeunes d'être diplômés. Je terminerai par là. Ce qui fait qu'un pays s'en sortira économiquement ou pas, c'est sa capacité à diplômer à Bac plus 2. C'est comme ça que raisonnent tous les économistes internationaux. Bac plus 2, c'est le BTS, c'est-à-dire que ce n'est pas en allant chercher ceux qui sont déjà destinés aux grandes écoles, à la médecine, enfin, etc., qu'on va augmenter ce potentiel. Notre élite, on la forme très bien. Il faut faire bouger ce Bac plus 2. Et j'espère que plus aucun élu local ne dira que le signe de l'échec dans sa commune, c'est le taux d'élèves orientés en LP. Je vous remercie. Merci.